Paso doble.
Paso doble.
Mercredi, cinéma.
Cinéma dans le sens large. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va parler de Twin Peaks ce matin. Twin Peaks, la série. Twin Peaks, le film. Le phénomène. Et aussi Twin Peaks, la ville. Bonjour Axel Cadieux.
Bonjour.
Vous avez consacré un livre à Twin Peaks. Vous êtes allé sur place. D'ailleurs, le titre de cet ouvrage, édité par Capricci, est très clair. Voyage, est-ce au pluriel, à Twin Peaks. Alors tout d'abord, est-ce que j'ai affaire ce matin à un fondu de la série?
Plus ou moins, disons que je pense ne pas appartenir à cette fanbase assez extrême de Twin Peaks.
Fanbase.
Oui, disons une base de fans pour être plus francophone. Ils sont très très nombreux. Ils connaissent la série sur le bout des doigts. Ils peuvent l'avoir vu 50 ou 60 fois. C'est pas spécialement mon cas. Moi, je l'ai vu 2-3 fois. J'aime beaucoup la série, comme j'aime d'autres séries. Mais je m'intéressais surtout aux phénomènes culturels et sociétal. Au-delà de la série en tant que telle, même si elle m'intéresse énormément, il y a déjà énormément de choses qui ont été écrites à ce sujet-là, en termes analytiques. Moi, je m'intéressais à l'objet, vraiment. Est-ce que ça représente 25 ans après?
Voilà, et puis vous restituez l'objet dans son territoire. On peut le dire d'ailleurs, le premier chapitre, c'est la carte et le territoire, pour parler de la jeunesse de cette série. Mais tout d'abord, Axel Cadieux, est-ce que je me trompe quand je dis que cette série de David Lynch va marquer l'arrivée de l'âge d'or des séries?
C'est une question. Moi, je pense que c'est un des éléments déterminants. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments déterminants, comme le déclin d'un certain type de production à Hollywood, comme l'explosion d'HBO, on va dire au milieu des années 90, avec des séries comme Oz, puis Les Sopranos, puis Six Feet Under. Et puis, il y a évidemment Twin Peaks au début des années 90, 90-91 pour la diffusion.
Avec un cinéaste venu donc du monde du cinéma qui va s'intéresser à une série télé.
Absolument. On avait déjà vu ça par le passé avec Michael Mann, par exemple, avec Spielberg. On a eu Tarantino également. Mais un cinéaste qui prend en charge comme ça une série de A à Z, en effet, à l'exception de Michael Mann. Michael Mann, à l'époque, n'était pas encore un cinéaste hyper reconnu, alors que David Lynch a la Palme d'Or en même temps qu'il fait Twin Peaks, pour Sailor et Lula. C'est quelque chose d'assez inédit à mon sens. Et pour le coup, c'est quelque chose qui montre au monde de la télévision et du cinéma que les barrières peuvent être interconnectées et que finalement des barrières, il y en a plus tant que ça.
Pourquoi il fait cette série de David Lynch? Parce qu'il a l'impression qu'il aura plus de liberté, qu'il va tout contrôler, parce que vous montrez qu'il contrôle tout. La musique, les histoires, les personnages, il est seul maître à bord, du moins pour la première saison.
David Lynch se permet de faire justement cette série parce qu'il sait, et c'est une condition sine qua non, qu'il sera seul maître à bord. Et c'est la même chose pour la saison 3. Sauf qu'en saison 3, il est plus légitime, disons. En ouais. Saison 1 et 2, c'était quand même un pari, même si après les quelques films qu'il avait déjà réalisés, c'était quand même déjà un cinéaste bien en place et bien respecté. Mais une des conditions, donc, c'est qu'il soit seul maître à bord. Et puis, par ailleurs, en termes de jeunesse de la série, il n'est pas non plus seul décisionnaire, c'est aussi un agent un petit peu visionnaire, c'est aussi Mark Frost. C'est aussi un contexte qui font que David Lynch se retrouve là et qui se dit finalement qu'il y a quelque chose à faire à la télévision. C'est pas non plus un pionnier qui est arrivé comme ça avec un projet complètement déterminé, carte sur table, figé de A à Z et qui a dit maintenant c'est ça que je veux faire. Ça reste un travail collectif, parce qu'on oublie souvent le rôle de Mark Frost, et puis ça reste un contexte qui est assez favorable.
Alors c'est quoi Twin Peaks, s'il fallait résumer cette série?
Twin Peaks, à mon sens, c'est la synthèse de quelque chose que moi j'adore aux États-Unis. C'est la synthèse du trivial et de la transcendance, du sacré et du profane, c'est-à-dire à la fois du mythe et à la fois du très concret, voire du glauque, voire de l'anodin qu'on transcende. Donc ça va être des lieux de quotidien, ça va être une ville on ne peut plus banal, qui est traversé à la fois des choses les plus terribles, donc c'est l'horreur qui grouille sous la glace, sous le vernis des choses, et puis c'est aussi cette espèce de mythe qui entoure la ville, qui est traversé de rites indiens, et qui transcende un peu le tout. Donc c'est cette espèce de conjonction des deux, en fait, de choses qu'on peut croiser au quotidien et qui acquiert une dimension supplémentaire par la grâce de l'environnement dans lequel il s'incarne. Je sais pas si c'est très clair, mais pour moi Twin Peaks c'est ça. C'est vraiment le... Et puis Twin Peaks, à l'époque aussi, au début des années 90, c'est cette idée qu'on a le droit de prendre le temps dans la vie et à la télévision. C'est-à-dire que c'est la restitution un petit peu de cette notion de plaisir à travers le café, à travers les tartes, et l'idée de se dire qu'on peut se poser et attendre et ne pas forcément faire avancer l'intrigue. Et ça, la télévision, ça n'existe pas à l'époque.
Axel Cadieu, je rappelle le titre de votre ouvrage, Voyage à Twin Peaks. Alors vous êtes allé sur place, est-ce que ce qu'on voit sur place, c'est quelque chose que vous comprenez à travers la série de David Lynch? Est-ce que vous voyez dans quel cadre il a pu être inspiré par aussi bien les personnages, les mythes, puisque vous en parlez, que le mystère, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans un endroit qui sait bien au mystère.
Je le vois au niveau du contexte, parce que c'est un espace, un paysage assez sauvage, disons. Donc en termes d'environnement, oui, je peux le comprendre. Il y a d'énormes montagnes, il y a des forêts très profondes, et en même temps, je souhaite pas forcément aux fans d'y aller, parce que forcément, quand on y va, on va dans l'envers du décor, et il peut pas ne pas y avoir de déception, parce que comme je le dis, ces lieux-là, la station-service, le diner, la prison, ce sont des lieux finalement complètement banals et qui sont, on va dire, transcendés par Lynch, qui leur inocule quelque chose d'inédit, qui leur inocule une espèce de grâce, une espèce de transcendance.
Comment? Avec la mise en scène, avec l'éclairage, avec la musique, avec les histoires que...
Avec en effet la musique, avec en effet les histoires, avec en effet la mise en scène. Je sais que, enfin, il y a des plans récurrents, par exemple du vent dans les arbres. C'est quelque chose que je développe pas mal dans le livre. Il y a quelque chose d'un peu complètement spirituel dans sa manière de filmer le quotidien, dans sa manière de filmer les intérieurs et les extérieurs. Rien que des génériques de début, c'est quelque chose qu'on retrouve. Donc oui, c'est toute la grâce de David Lynch, qui est capable de faire d'objet du quotidien quelque chose d'autre. Mais s'il n'y avait pas eu Mark Frost, qui est un habitué de la télé, et qui est capable, disons, de coudre des intrigues sur plusieurs dizaines d'épisodes, je pense que cette grâce-là, toute lynchienne, elle n'aurait pas forcément trouvé son public, parce qu'elle a besoin d'un véhicule. Elle a besoin d'un véhicule scénaristique bien construit.
Pourquoi Twin Peaks ? Pourquoi ce lieu ?
Twin Peaks, David Lynch est né dans le Montana, donc pas très loin de l'État de Washington, et donc c'est des territoires qui lui parlent, forcément. C'est des territoires dans lesquels il a pas vécu, mais qu'il a connu, qu'il a traversé, et c'est tout à fait différent, en fait, de Los Angeles ou de la Californie. Ce sont des endroits extrêmement verts, absolument pas arides, c'est un climat tempéré, c'est quelque chose de très... qui est favorable, disons, à l'émergence d'une certaine magie.
Quelques notes jouées comme au ralenti, des cordes et puis une série d'envolées qui, par vagues, viennent faire surgir l'étrangeté et l'émotion. Quand ça commence, cette aventure de Twin Peaks, la musique est vraiment là au début, Axel Cadieu. Hein. C'est en 1989, dans un studio new-yorkais. Est-ce qu'il a déjà les images en tête, David Lynch, quand il travaille avec le compositeur de musique ?
Je pense qu'il a forcément les images en tête. En tout cas, il a une esquisse en tête. Bon, après, je ne suis pas dans la tête de David Lynch. C'est quelqu'un de très mystérieux qui donne très peu d'interviews, comme on sait. Donc ses méthodes restent un petit peu, obscures. Mais à mon avis, il a déjà évidemment les images en tête. Mais c'est quelqu'un qui se nourrit énormément des collaborations. Donc évidemment que le thème de Badalamenti... Angelo Badalamenti, donc son compositeur, va le suivre, et évidemment qui va l'influencer dans une certaine direction.
Ils avaient déjà travaillé ensemble pour Blue Velvet.
Exact.
La musique est là, mais est-ce qu'il y a une intrigue dans Twin Peaks, ou c'est la fameuse fausse intrigue que David Lynch réussit à mettre en place pour les séries télé et que d'autres vont d'ailleurs imiter.
Certaines personnes disent que l'intrigue de Twin Peaks, c'est un MacGuffin. Le MacGuffin, c'est quelque chose qui vient d'Hitchcock. Ça veut dire qu'on met en place une intrigue qui, en fait, est juste un prétexte à parler d'autre chose. Et en l'occurrence, à parler du mythe américain, à parler d'une petite ville américaine, de ce que ça représente, des personnes qui la composent. Moi, je pense quand même que l'intrigue de Twin Peaks est fondamentale, déjà parce qu'elle court quand même sur près en fait la moitié de la saison 1 et de la saison 2, et puis parce que c'est quand même cette intrigue-là et sa résolution qui a fait que Twin Peaks est devenu à la base un succès incommensurable, et que des millions de personnes l'ont suivi dès le début. Et quand d'ailleurs l'intrigue a été résolue et qu'on est passé à autre chose, il y a beaucoup moins de personnes qui ont suivi la série. Donc oui, il y a eu une intrigue, et David Lynch a en quelque sorte été forcé de résoudre l'intrigue par la chaîne.
Vous voulez dire qu'il a été contraint à un certain moment de dire qui a tué Laura Palmer?
Il y a eu un ensemble de choses qui ont fait que, moi je pense qu'il voulait continuer. D'ailleurs, c'est ce que disent ses collaborateurs. Il voulait continuer aussi, parce qu'il savait que si on ne connaissait pas le tueur, jamais la chaîne n'aurait la force d'annuler la série. Parce que on peut pas couper une série comme ça en plein suspense. Il savait qu'une fois que la résolution allait être donnée, allait être sue, il serait un petit peu, disons, sans bouclier.
Mais lui, au début, il connaissait le coupable ?
Je pense pas. A priori, non. A priori, non. En tout cas, personne sur le plateau ne savait qui avait tué Laura Palmer. Même, je veux pas spoiler, donc je donne pas d'indication, mais même le fameux tueur, les fameux tueurs, entre guillemets, ne savait pas. Ils l'ont su au fur et à mesure. Et 3 scènes ont été filmées. Avec 3 tueurs différents, pour que l'intégralité des techniciens ne sache pas qui était le vrai tueur, même à quelques mois de la diffusion.
On est dans le divertissement avec Twin Peaks, Axel Cadieux, où il y a aussi une manière pour David Lynch de décrire une Amérique, son Amérique.
On est dans les deux, en fait. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que ça réussit à faire un alliage, disons, de plusieurs choses. On est dans le divertissement. Parce que on peut se laisser emporter par cette intrigue, finalement extrêmement glauque, mais somme toute assez classique. Et dans le même temps, on a accès à des plages, disons, de latence, de plaisir, comme je le disais tout à l'heure, de pause, en fait, qui là, pour le coup, relève d'une certaine exigence, mais que les spectateurs sont capables d'accepter, même s'ils n'en ont pas l'habitude, parce que derrière, il y a une intrigue qui les tient. Donc moi, c'est ce que j'appelle tirer les spectateurs vers le haut, et on s'aperçoit que quand on tire les spectateurs vers le haut et qu'on est exigeant avec eux et qu'ils suivent, justement, ils suivent. Et donc, c'est quelque chose qu'on devrait être capable d'appliquer, qu'on applique de plus en plus, ne pas niveler par le bas, en quelque sorte. Donc c'est du divertissement et évidemment une œuvre d'art, même si du divertissement peut être une œuvre d'art sans aucun problème.
Je rappelle que vous êtes journaliste, que vous travaillez pour SoFilm et Society, et que votre ouvrage édité par Capricci a pour titre Voyage avec S à la fin à Twin Peaks. Quand vous allez justement sur place, les personnages ressemblent à la série, ou ils font tout depuis que la série a eu du succès, et même un succès mondial, pour essayer de coller à cette image que David Lynch a inventée pour eux?
Oui, parce que donc j'ai été amené là-bas dans les lieux du tournage par les organisateurs du festival Twin Peaks, qui a lieu tous les ans dans les environs de Seattle. Non, moi je pense que ce sont des personnes qui sont assez barrées à la base, et c'était mon vrai plaisir, en fait, c'était d'aller sur ces lieux, et par chance, disons,
barrées pourquoi?
Parce que ils ont quelque chose d'extrêmement ils ont ce côté américain, en fait, un petit peu bigger than life, où on est obligé de les raconter, on est obligé d'avoir ce grand plaisir de narration en les rencontrant. Parce que c'est un couple, donc la femme, par exemple, Diane, a des médaillons de chat, des pulls de chat, ses grosses lunettes avec d'énormes loupes. Ce sont des personnages extrêmement attachants, mais assez particuliers. Même cet homme qui a tout du texan, disons, comme on pourrait l'imaginer en caricaturant, et qui finalement se révèle complètement passionné par cette série qui est somme toute qui est quand même une série à part, qui l'a vu peut-être 100-120 fois, et qui parle avec les mains, et qui a ce gros visage tout rond, on a un plaisir de description, en fait. On a un vrai plaisir de description, et ce serait pas étonnant, en effet, que de le découvrir dans la série. Je sais pas si c'est parce que il y a eu la série que ce sont devenus eux-mêmes des sortes de personnages de cinéma, de personnages de récit, ou s'ils l'étaient déjà initialement et finalement se sont bien retrouvés dans la série, j'en sais rien. Mais j'ai eu la chance de tomber sur des personnes que j'ai eu envie de mettre dans le livre. Sans ça, je pense que le récit aurait été un peu plus classique, juste un espèce de récit touristique dans les lieux de la série où a été tournée la série. Je pense pas que ça aurait été particulièrement intéressant.
Je suppose qu'il y a un pèlerinage de fans à Twin Peaks, qu'il y a un tour pour passer d'une maison, d'un décor à l'autre.
Il y en a, mais encore une fois, pas régulièrement. Les Sopranos, c'est tout le temps. Il y a des tours organisés. C'est la même chose pour Sex in the City. Twin Peaks, ça reste finalement une énorme base de fans, mais qui respecte, disons, le lieu, comme un espèce de lieu un petit peu mythique. Donc oui, il y a ces tours-là, mais une fois par an, lors du festival. C'est pas non plus des quarts de touristes qui vont et qui viennent. Il y a des touristes, mais qui sont souvent là, pas pour Twin Peaks, simplement parce que ces rivières sont belles et ce cadre est beau. Mais les fans se font finalement assez discrets, parce qu'il y a un vrai respect de la mythologie et du cadre, en fin de compte.
Vous avez vu les premiers épisodes de cette troisième saison, c'est-à-dire 25 ans après? Qu'est-ce que vous en pensez, Axel Cadieux?
À l'heure où on parle, j'en ai vu 4 sur 5. Le cinquième a été diffusé ce dimanche aux États-Unis. J'étais relativement inquiet, dans le sens où quand Twin Peaks est arrivé au début des années 90, c'était, disons, une série pionnière. Ça l'est plus aujourd'hui, parce que la donne a singulièrement changé. Donc j'ai été très agréablement surpris, parce que je trouve que c'est une série qui réussit à la fois à se réinventer, parce que ça n'a rien à voir avec la saison 1 et 2, et à réinventer les séries en elles-mêmes, le cadre télévisuel, parce que on n'a pas l'habitude de voir une série comme Twin Peaks saison 3 aujourd'hui. Et dans le même temps, je trouve que les gens vont un peu vite, parce que on a vu 4 ou 5 épisodes sur 18, et les gens sont déjà en train de juger globalement, de dire que c'est beaucoup trop complexe, il y a beaucoup trop de scènes qu'on comprend pas, et que bientôt les spectateurs vont lâcher. Je pense que les gens vont trop vite avec les séries. Ça reste, comme l'a dit David Lynch, même si j'aime pas trop l'expression, un grand film qui va se dévoiler tout au long des 18 épisodes. Et je trouve ça dur de dire au bout d'un tout petit quart, même pas un quart, c'est comme ça, c'est d'avoir un avis définitif et tranché.
Mais qu'est-ce qui va pousser David Lynch à revenir à Twin Peaks? Parce que il avait à peu près tout raconté en 2 saisons et un film, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu aussi un film pour le cinéma.
Moi, je pense qu'il avait encore beaucoup de choses à raconter, qu'il était à la fois très triste et frustré que la série s'arrête, même s'il avait plein d'autres projets. Et qu'il n'était pas, disons, dénué de tout. Non, moi, je pense qu'il avait plein de choses à raconter, et je pense aussi qu'il est complètement amoureux de Laura Palmer. Ça, c'est un fait. Qu'il adore ses personnages. Et c'est quelqu'un qui marche quand même énormément à l'affection, à la fois à l'affection de ses personnages et de ses acteurs. Donc, je pense que c'était quelque chose qui lui manquait, parce qu'ils ont tous vécu quelque chose d'assez fort sur ce tournage. Je pense que c'est aussi un cinéaste qui marche à la nostalgie. C'est un cinéaste qui a une espèce d'amour profond de cette ambiance un petit peu années 50, 60, de ces espèces d'ambiance d'Amérique profonde, et qu'il avait envie d'y retourner. Et puis par ailleurs, je pense qu'il aurait, enfin, il avait besoin de revenir à Twin Peaks pour revenir dans le cadre télévisuel cinématographique.
Axel Cadieux, pour terminer cet entretien autour de Twin Peaks et de vos voyages à Twin Peaks, est-ce qu'on peut dire que cette série a influencé d'autres? Parce que c'est devenu un modèle, hein, de parler de la ruralité. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs d'un feuilleton rural?
En tout cas, c'est une des séries les plus ancrées géographiquement. Et c'est ça qui fait sa singularité. C'est que sans Twin Peaks, la ville, il n'y a pas de Twin Peaks, la série, on ne peut pas l'imaginer.
Et la ville, c'est quoi? C'est une bourgade, hein?
C'est une bourgade, en vrai, ça s'appelle même pas Twin Peaks, ça s'appelle North Bend, dans la vallée de Snoqualmie, c'est rien, c'est peut-être 3 rues qui s'entrecroisent en bloc américain, et puis c'est tout. Donc, j'y suis pas resté assez longtemps, honnêtement, pour découvrir ce que North Bend avait vraiment à offrir, en termes de faits divers, et puis en termes d'horreur qui couve sous la glace. De toute façon, c'est quelque chose dont David Lynch est extrêmement familier. Et c'est quelque chose qui lui parle, et ça vient pas de nulle part, à mon avis. D'ailleurs, j'en parle un peu dans le livre. Ça vient aussi d'un autre fait divers qui a lieu en Californie, qui a probablement influencé Twin Peaks et David Lynch.
Voyage à Twin Peaks, édité chez Capricci. Merci d'être passé ce matin, Axel Cadieux.
Merci à vous.